Chapitre 25. Bien que le gouverneur lui eût formellement interdit l'entrée de la prison, Nekhludoff savait par expérience que ce qu'on ne pouvait pas obtenir des autorités supérieures s'obtenait, au contraire, sans trop de peine, des autorités inférieures. Aussi espérait-il que le directeur de la prison l'autoriserait à pénétrer auprès de la Maslova pour lui annoncer l'acceptation de son recours en grâce. Et il espérait pouvoir, en même temps, s'informer de la santé de Kryltsov et lui faire part, ainsi qu'à Marie Pavlovna, du résultat de son entretien avec le gouverneur. Le directeur de la prison était un homme grand et trapu, de figure imposante, avec de longues moustaches et un collier de barbe. Il fit à Nekhludoff un accueil sévère et lui déclara tout de suite que l'accès de personnes étrangères auprès des détenus n'était possible qu'avec l'autorisation du gouverneur. Et comme Nekhludoff lui disait que même dans les grandes villes, sur le parcours du convoi, on l'avait laissé entrer chez les prisonniers, le directeur répondit d'un ton sec « Cela est fort possible, mais moi, je ne puis pas vous laisser entrer. » Et son ton signifiait aussi clairement que possible « Vous autres, messieurs de la capitale, vous vous figurez que vous allez nous étonner et nous embarrasser. Mais point. Et nous, en Sibérie, nous vous ferons voir que nous connaissons assez la règle pour vous en remontrer au besoin. » Nekhludoff lui présenta la copie du décret graciant la Maslova. Mais cela non plus ne fit pas le moindre effet sur ce terrible homme. Non seulement il se refusa avec obstination à laisser franchir à Nekhludoff les portes de la prison, mais il ne voulut pas même lui dire si le convoi était arrivé. Et Nekhludoff lui ayant ingénument demandé si la copie qu'il venait de recevoir pourrait suffire pour la mise en liberté de la Maslova, il sourit à cette question d'un sourire si méprisant que Nekhludoff eut honte lui-même de sa naïveté. Le directeur poussa cependant la condescendance jusqu'à lui promettre qu'il ferait part à la Maslova de l'acceptation de son recours en grâce, ajoutant même, en signe d'une faveur toute spéciale, qu'il ne la retiendrait pas, fût-ce pendant une heure, dès que ses chefs lui auraient transmis l'ordre de la relâcher. Et ainsi Nekhludoff, sans avoir rien pu obtenir, remonta dans son fiacre et regagna son hôtel. Il apprit, en revanche, de la bouche même du cocher, que le convoi était arrivé depuis près d'une heure, et il apprit aussi, de la même source, le motif de l'inflexible sévérité du directeur de la prison. Cette sévérité provenait de ce que, dans la prison encombrée, s'était déclarée une épidémie de typhus. Rien d'étonnant à cela, déclarait le cocher en se retournant sur son siège. Il y a deux fois plus de prisonniers que la prison ne devrait en contenir. Aussi ça chauffe-t-il tous ces jours-ci. Il en meurt plus de 20 par jour. Chapitre 26. L'insuccès de la démarche de Nekhludoff auprès du directeur de la prison n'avait pas calmé la fièvre d'activité qu'il ressentait ce jour-là. Au lieu de remonter dans sa chambre, comme il en avait eu d'abord l'intention, il résolut de retourner au palais du gouverneur afin de demander, dans les bureaux, si l'on n'avait pas encore reçu avis de la grâce de la Maslova. Il fit la route à pied, trop heureux d'avoir trouvé un nouveau prétexte pour se distraire de la pensée qui le tourmentait. Et quand il apprit, dans les bureaux, qu'aucun avis n'était encore venu, il fut trop heureux de pouvoir passer plus d'une heure à écrire des lettres. Il écrivit à Sélénine, à sa tante, à son avocat, leur disant son inquiétude d'un retard qui n'avait cependant rien que de naturel. Les lettres finies, il regarda sa montre et fut ravi de découvrir qu'il avait à peine le temps de refaire sa toilette s'il ne voulait pas arriver en retard chez le gouverneur. Mais voici que de nouveau, dans la rue, l'importune pensée prit possession de lui. Comment Katyusha accueillerait-elle sa commutation de peine? Où se fixerait-elle? Que ferait Simonson? Et que pensait-elle de lui? Quel sentiment éprouvait-elle pour lui? Nekhludoff se rappela le changement qui s'était produit en elle. Il se rappela ses visites à la prison, le sourire qu'elle lui avait adressé par la fenêtre grillée du wagon en partant avec le convoi. « Il faut oublier tout cela, l'extirper de moi, » se dit-il. Et de nouveau, il s'ingénia à ne point penser à la jeune femme. « Bientôt, je la reverrai, tout se décidera. » Et il se mit à combiner la façon dont il pourrait insister auprès du gouverneur pour obtenir la permission d'entrer dans la prison. Le dîner du gouverneur, organisé avec le luxe habituel de ce genre de fête, fit ce soir-là un plaisir tout particulier à Nekhludov, après les longs mois où il avait dû se priver non seulement de tout luxe, mais des commodités les plus élémentaires. La femme du gouverneur, ancienne demoiselle d'honneur de la cour de Nicolas, était une grande dame pétersbourgeoise de la vieille école, parlant parfaitement le français et ne parlant le russe qu'assez imparfaitement. Elle se tenait très droite et, dans ses mouvements, s'efforçait de ne jamais éloigner ses coudes de sa taille. À son mari, elle témoignait une considération tranquille et quelque peu méprisante, mais pour ses hôtes, elle était d'une amabilité extrême, sans négliger toutefois de proportionner ses faveurs au degré de leur importance. Elle reçut Nekhludov comme un homme de son monde, l'entourant de ses légers et insensibles hommages qui firent que, une fois de plus, il eut la pleine conscience de ses perfections et se sentit pleinement satisfait. Elle lui donna à entendre, très discrètement, qu'elle connaissait les sentiments un peu singuliers, mais d'autant plus honorables, qu'il avait amené en Sibérie. Et il comprit qu'elle le tenait pour un homme exceptionnel. Et ses légers hommages, et l'atmosphère de bien-être et de luxe qui remplissait la maison du gouverneur, tout cela eut pour conséquence que Nekhludov s'abandonna tout entier au plaisir de pouvoir manger un excellent dîner, en compagnie de personnes aimables et distinguées. Il eut l'impression de se retrouver dans un milieu qui lui était familier, dans son véritable milieu, comme si tout ce qu'il avait vu autour de lui pendant les derniers temps n'eût été qu'un rêve dont il venait soudain de se réveiller. Outre le général, sa femme, son gendre et sa fille, il y avait à table un riche marchand possesseur de mines d'or, un chef de bureau retraité, et le voyageur anglais dont le gouverneur avait parlé le matin à Nekhludov. Et avec chacun de ces trois invités, Nekhludov fut ravi de faire connaissance. Le voyageur anglais se trouva être un homme roux et plein de santé, parlant fort mal le français, mais très éloquent dès qu'il pouvait librement s'exprimer en anglais. Il savait beaucoup de choses, il avait vu beaucoup de choses. Il intéressa énormément Nekhludov en lui parlant de ses souvenirs rapportés d'Amérique, de l'Inde, du Japon et de la Sibérie. Le jeune marchand possesseur de mines d'or, fils de paysan, vêtu d'un habit à la dernière mode avec des boutons de brillant sur le plastron de sa chemise, se trouva être lui aussi un homme charmant. Il avait la passion des livres, sacrifiait de grosses sommes pour des œuvres charitables, et se tenait soigneusement au courant de tous les progrès de l'opinion libérale en Europe. Nekhludov fut ravi de le connaître. Il le jugea intéressant, à la fois parce qu'il causait très agréablement, et parce qu'il représentait un phénomène social nouveau et tout à fait sympathique, le phénomène d'une greffe heureuse de la civilisation européenne sur le tronc vigoureux de la nature russe. Le chef de bureau en retraite était un petit homme tout enflé, avec de rares cheveux frisés un à un, des yeux bleus toujours humides, un ventre pointu et un bon sourire. Il parlait peu et manquait d'éclat, mais le gouverneur l'estimait parce qu'il avait montré dans ses fonctions une certaine honnêteté. Et davantage encore l'estimait la femme du gouverneur, pianiste distinguée, parce qu'il était excellent musicien et jouait avec elle des morceaux à quatre mains. Et si bienveillante était la disposition d'esprit où se trouvait Nekhludov, qu'il fut ravi de faire connaissance même avec ce petit chef de bureau retraité. Encore aucun de ces trois convives ne produisit-il à Nekhludov une impression aussi charmante que le jeune et aimable couple de la fille du gouverneur et de son mari. La fille du gouverneur n'était pas jolie, mais toute sa figure exprimait une douceur ingénue. Elle n'avait de pensée au monde que pour ses deux enfants. Son mari, qu'elle avait épousé par amour, et un peu contre le gré de ses parents, était un ancien lauréat de l'université de Moscou. Modeste, timide, et ne manquant point d'intelligence, il se délassait de la monotonie du service en s'occupant de statistiques. Personne n'était renseigné comme lui sur le mouvement de la population étrangère en Sibérie. Tout ce petit monde accueillit Nekhludov avec une politesse et des prévenances d'autant plus marquées que très sincèrement ils étaient eux-mêmes enchantés de le voir, ayant rarement l'occasion de rencontrer des figures nouvelles. Le gouverneur, qui s'était mis en grande tenue militaire, avec une croix blanche sur la poitrine, s'entretint tout de suite avec lui comme avec un vieil ami. Il lui demanda, sitôt assis, ce qu'il avait fait depuis le matin. Mais comme Nekhludov, profitant de l'occasion, lui répondait qu'il avait appris à la poste la grâce de la condamnée à qui il s'intéressait, et comme de nouveau il insistait à ce propos pour être admis à la voir dans la prison, le gouverneur fronça les sourcils et fit mine de ne pas avoir entendu. Évidemment, il n'aimait pas qu'on lui parlât d'affaires pendant qu'il mangeait. « Encore un peu de ce vin, » dit-il en français, au voyageur anglais. L'anglais, tendant son verre, raconta qu'il avait visité dans la journée la cathédrale et deux fabriques. Il ajouta qu'il serait heureux de pouvoir visiter la grande prison des déportés. « Eh bien, voilà qu'il se trouve à merveille !» s'écria le gouverneur en se tournant vers Nekhludov. « Vous irez ensemble. Je vais vous signer un laissez-passer. » « Ne voudriez-vous pas visiter la prison le soir, ce soir même ?» demanda Nekhludov au voyageur. « Oui, je voulais précisément vous prier de m'autoriser à visiter la prison ce soir, » dit l'anglais au gouverneur. « Tous les déportés sont dans leur chambre, je pourrai voir leur vie telle qu'elle est vraiment. » « Ah ah, le gaillard, il veut voir la fête dans toute sa splendeur, » fit le gouverneur, qui, jusque-là, avait fort bien dissimulé son état d'ivresse. « Ah ah, eh bien, il la verra. J'ai écrit 20 fois à Pétersbourg pour réclamer. On ne m'a pas écouté. Peut-être se décidera-t-on à agir quand on aura lu les mêmes réclamations dans la presse étrangère. » Puis l'entretien changea. On parla de l'Inde, de l'expédition du Tonkin, dont les journaux russes s'occupaient alors, on parla de la Sibérie, et le gouverneur cita quelques exemples extraordinaires de l'universelle corruption des fonctionnaires sibériens. Vers la fin du dîner, la conversation s'alourdit, ou du moins Nekhludov trouva qu'elle s'alourdissait. Mais, après le dîner, lorsqu'on fut passé au salon pour prendre le café, la maîtresse de la maison eut l'idée d'interroger le voyageur anglais sur Gladstone. Et Nekhludov eut l'impression que les réponses de l'anglais étaient pleines de sens. Après le bon dîner, après le bon vin, assis dans un bon fauteuil, en compagnie de bonnes gens d'une éducation parfaite, Nekhludov se sentait de plus en plus à l'aise. Et lorsque la maîtresse de la maison, sur la prière de l'anglais, s'assit au piano avec le chef de bureau retraité et se mit à jouer la symphonie en ut mineur de Beethoven, Nekhludov éprouva un sentiment de satisfaction de soi-même que depuis bien longtemps il n'avait plus éprouvé. C'était comme si soudain il avait de nouveau reconnu tout ce qu'il valait. Le piano était excellent. Nekhludov, qui connaissait par cœur la symphonie de Beethoven, dut s'avouer que rarement il l'avait entendue aussi bien jouée. Au milieu de l'admirable andante, il eut peine à se retenir de pleurer. Il s'attendrit sur lui-même, sur Katyusha, sur sa sœur Nathalie, qui l'avait tant aimé. Après avoir remercié l'hôtesse de la jouissance artistique qu'elle lui avait procurée, il s'était levé pour prendre congé. Lorsque la fille du gouverneur s'approcha de lui et lui dit en rougissant « Vous avez eu la bonté de vous intéresser à mes enfants. Voulez-vous les voir ?»« Elle s'imagine que c'est un grand bonheur pour tout le monde de voir ses enfants, » dit la mère avec un sourire indulgent pour le manque de tact de sa fille. « Le prince n'a aucune envie de les voir. »« Mais pardon, au contraire, j'en serais très heureux, » protesta Nekhludov, profondément touché de ce rayonnement d'amour maternel. « Au contraire, je vous supplie de me les laisser voir. » Elle emmène le prince pour lui faire admirer ses moutards, s'écria en riant le gouverneur du fond du salon, où il était occupé à jouer au whist avec son gendre et le possesseur de mine d'or. « Allons, mon ami, acquittez-vous de cette corvée. » Cependant, la jeune femme, visiblement émue à la pensée qu'on allait porter un jugement sur ses enfants, sortit en hâte du salon, entraînant Nekhludov derrière elle. Dans une grande chambre, toute tendue de blanc, et éclairée d'une lampe dont un abat-jour sombre adoucissait la lumière, deux petits lits d'enfants étaient dressés côte à côte, et près d'eux se tenait assise une nourrice en pèlerine blanche, avec une bonne grosse figure de sibérienne. Elle se leva pour saluer sa maîtresse. La jeune mère, aussitôt entrée, se pencha sur l'un des lits. « Ceci, c'est ma Katia, » dit-elle, en écartant le rideau pour laisser voir le charmant visage aux longs cheveux d'une petite fille de 2 ans qui dormait tranquillement, la bouche ouverte. Elle est jolie, n'est-ce pas? Et pensez qu'elle n'a que 2 ans. Délicieuse. Et voici Vaska, comme l'appelle son grand-père. Un tout autre type. Un vrai Sibérien, n'est-ce pas? Oui, un garçon superbe, dit Nekhludov en regardant un bébé tout joufflu et tout rouge. La mère, debout près de lui, souriait doucement. Et soudain, Nekhludov se rappela les chaînes, les têtes rasées, les coups de poing sur les yeux, Kriltsov mourant, Katyusha. Et il ressentit une affreuse souffrance. Et il regretta de n'avoir point, lui aussi, un bonheur comme celui qu'il voyait, si calme et si pur. Ayant encore loué de son mieux la beauté des 2 enfants, il revint avec la mère au salon, où l'anglais l'attendait pour se rendre avec lui à la prison, comme c'était convenu. On se dit adieu, on échangea des souhaits et des remerciements. Et Nekhludov, en compagnie de l'anglais, sortit de l'hospitalière maison du gouverneur. Le temps avait changé. Une neige serrée tombait par rafales et avait couvert déjà le pavé de la cour, les arbres du jardin, les marches du perron, le dessus de la voiture, le dos des chevaux. Nekhludov monta dans la voiture avec son compagnon et ordonna au cocher de se rendre à la prison. Chapitre 27. La neige avait eu beau orner toute chose d'un joyeux voile blanc, elle avait eu beau en orner le toit, le perron, la cour de la prison, celle-ci, avec ses 2 lanternes rouges et son factionnaire, n'en gardait pas moins un aspect sinistre. Le directeur à la mine imposante vint lui-même recevoir les visiteurs sur le pas de la porte. À la lumière des lanternes, il lut soigneusement le laissez-passer que le gouverneur avait remis à Nekhludov au sortir de table. Puis, se bornant à hausser les épaules en signe de résignation aux caprices de son chef, il invita les 2 visiteurs à le suivre jusque dans son bureau. Arrivé là, il leur demanda ce qu'il voulait voir. Nekhludov lui dit que, avant toute autre chose, il désirait avoir un entretien avec la Maslova, ajoutant que son compagnon, d'autre part, désirait poser quelques questions sur le régime de la prison, de manière à pouvoir ensuite visiter les salles avec plus de profit. Le directeur ordonna à un gardien d'aller chercher la Maslova et de l'amener au bureau. « Combien de personnes la prison peut-elle contenir ?» demanda l'anglais, par l'intermédiaire de Nekhludov. « Combien de personnes contient-elle en ce moment ? Combien d'hommes ? Combien de femmes ? Combien d'enfants ? Combien de forçats, de déportés, de suivants libres ? Combien de malades ?» Nekhludov traduisait, au fur et à mesure, les questions de l'anglais et les réponses du directeur. Mais il eût été absolument hors d'état de dire ce que signifiaient ces questions et ces réponses, car la perspective de son entretien avec Katyusha l'avait anéanti. Et quand, au milieu d'une phrase qu'il traduisait, quand il entendit un bruit de pas dans le corridor, et quand la porte s'ouvrit, et quand, ainsi que cela s'était passé bien d'autres fois depuis 3 mois, mais cette fois-ci sans doute serait la dernière, quand il vit entrer un gardien conduisant derrière lui, vêtu de blanc, avec son fichu sur la tête, Katyusha, quand il vit Katyusha, ce fut comme si tout le sang de ses veines avait brusquement cessé de couler. « Je veux vivre, je veux avoir une famille, des enfants, je veux prendre une part de bonheur », murmura à ce moment en lui une voix que depuis longtemps il n'avait plus entendue. Il se leva et fit quelques pas au-devant de Katyusha. Celle-ci n'avait encore rien dit. Mais elle était toute rouge, animée, et le regardait avec une expression dont il fut froissé. C'était une expression qu'il ne lui avait encore jamais vue, un mélange de résolution froide et d'ardente passion. Elle rougissait et elle pâlissait, ses doigts enroulaient et déroulaient le bord de sa veste, et tantôt elle le regardait bien en face, tantôt elle baissait timidement les yeux. Tu sais la nouvelle ? Demanda Nekhludov. « Oui, on me l'a apprise. Mais voilà, j'ai maintenant décidé, je vais me marier avec Vladimir Ivanovitch. » Elle parlait très vite, sans s'arrêter. Évidemment, elle avait préparé d'avance les phrases qu'elle disait. « Comment ? Avec Vladimir Ivanovitch ?» commença Nekhludov. Mais elle l'interrompit. « Eh bien quoi, puisqu'il le veut, que je vive avec lui. » Elle s'arrêta comme épouvantée. Puis, se reprenant, « Puisqu'il veut bien que je vive près de lui, que puis-je souhaiter de mieux? Peut-être lui ferai-je plaisir. Peut-être arriverai-je à me rendre utile. Que puis-je ?» De deux choses l'une, ou bien elle s'était prise d'amour pour ce Simonson, et vraiment elle n'avait plus besoin du sacrifice de Nekhludoff, ou bien elle continuait à l'aimer, lui, Nekhludoff, et c'était pour le dégager de son fardeau qu'elle unissait sa vie à celle de Simonson. Clairement, Nekhludoff se rendit compte de cette alternative. Et il eut honte. Il se sentit rougir. « Si tu l'aimes, » dit-il. « Moi, voyez-vous, jamais je n'ai connu des hommes de cette espèce-là. Comment ne pas les aimer ? Et puis, Vladimir Ivanovitch, il est si différent des autres. » « Sans doute, » reprit Nekhludoff d'une voix tremblante. « C'est un homme excellent, et je crois, mais elle l'interrompit de nouveau, comme si elle eût craint qu'il dît ce qu'il allait dire. Ou peut-être était-ce elle-même qui tenait à lui dire tout. « Non, non, il faudra que vous nous pardonniez de ne pas faire ce que vous voulez, » murmura-t-elle. « C'est que vous, vous avez besoin de vivre. » Ce qu'il s'était déjà dit déjà dans la chambre des enfants, chez le gouverneur, voici que Katyusha le lui répétait. Mais déjà il avait cessé de se dire cela. De tout cela, nulle trace déjà ne restait plus en lui. Il avait de nouveau d'autres sentiments et d'autres pensées. Il avait honte, il avait peur, l'angoisse l'étreignait. « Et ainsi, tout est désormais fini entre nous, » demanda-t-il. « Mais oui, c'est à croire que oui, » répondit-elle avec un étrange sourire. « Je serais pourtant bien heureux de pouvoir te rendre service. »« Nous n'avons besoin de rien. » Elle regarda Nekhludoff dans les yeux en prononçant ce « nous ».« Je vous dois déjà assez comme ça, sans vous. » Elle voulut ajouter quelque chose, mais soudain sa voix faiblit. Elle baissa la tête et ne dit plus rien. « Je ne sais pas qui de nous deux doit le plus à l'autre. Dieu réglera nos comptes, » reprit Nekhludoff. « Oui, oui, c'est cela. Dieu nous voit, » murmura-t-elle. « Are you ready ? Êtes-vous prêt ?» demanda l'anglais. « Tout de suite, » répondit Nekhludoff. Puis, s'efforçant de contenir son angoisse, il interrogea Katyusha sur la santé de Kryltsov. Katyusha, elle aussi, s'était ressaisie. D'un ton presque tranquille, elle dit ce qu'elle savait, que Kryltsov avait beaucoup souffert dans le trajet et que dès l'arrivée, il avait été envoyé à l'infirmerie. Marie Pavlovna avait demandé la permission de le soigner, mais on lui avait répondu que c'était impossible. « Et maintenant, je vais retourner là-bas, » ajouta-t-elle, en voyant que l'anglais s'impatientait. « Ne nous disons pas encore adieu. « Je vous reverrai, » dit Nekhludoff en lui tendant la main. « Non, adieu, adieu, » lui répondit Katyusha d'un ton résolu. Et alors leurs yeux se rencontrèrent. Et dans le regard des yeux un peu louches de Katyusha, dans son triste sourire, dans la façon dont elle dit le mot « adieu », Nekhludoff comprit clairement que des deux explications possibles de sa conduite, c'était la seconde qui seule était vraie. Il comprit qu'elle l'aimait, que de tout son cœur elle l'aimait, comme le soir où il l'avait embrassée au sortir de l'église. Et il comprit qu'elle s'était dit qu'en se mariant avec lui, elle lui imposerait un sacrifice. Elle perdrait sa vie. Tandis qu'en se mariant avec Simonson, elle le délivrait. Elle serra la main qu'il lui tendait, se retourna brusquement et sortit. L'anglais aurait voulu procéder de suite à la visite des salles. Mais en voyant l'émotion qui faisait trembler les mains de Nekhludoff, il eut un scrupule et fit mine de devoir d'abord noter certains détails dans son carnet de poche. Nekhludoff s'assit sur un banc de bois à l'écart. Son cœur était plein de honte et de désespoir. Il se tint là quelques minutes, sans penser. « Eh bien, messieurs, voulez-vous que maintenant nous parcourions les chambres ?» demanda le directeur. Nekhludoff se leva en sursaut. L'anglais referma son carnet et l'on se mit en marche.